Calade, ma radio.
Allez, il est l'heure de reconnaître ces mots avec des mots. Et pour ça, on le fait en compagnie de Christelle Rest. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Ça va bien, en forme ?
Oui, enfin. toujours.
On a commencé une série consacrée aux liens d'attachement. On a fait un premier épisode pour expliquer un petit peu ce que c'était.
Oui.
Un deuxième sur le lien d'attachement, je viens de perdre le nom.
Insécure évitant.
Et donc le troisième épisode, aujourd'hui, on va parler du...
lien d'attachement anxieux dit ambivalent. On dit anxieux ou ambivalent en fonction des littératures.
Très bien. Alors, est-ce qu'on commence par rappeler peut-être ce qu'est le lien d'attachement ?
Alors, oui, le lien d'attachement, donc, c'est John Bowlby, qui est psychologue, qui dans les années 50 avait défini le lien d'attachement comme étant spécifique et indispensable au développement d'un enfant, au même titre que la nourriture et l'eau, ainsi que le sommeil. Donc, aujourd'hui, le lien d'attachement anxieux-ambivalent, c'est une oscillation entre la dépendance et l'insécurité, qui se montre tantôt l'un, tantôt l'autre. Mmh. Ça a été développé par d'autres psychologues. Hein. On a Hazan et Schaber qui en ont parlé également dans les fins des années 80. Ce sont des personnes qui vivent une peur intense de l'abandon.
Okay.
Et ça peut entraîner, bien sûr, des comportements de dépendance affective également.
Alors, comment est-ce que ça se construit, ce lien d'attachement anxieux ambivalent?
Alors, ça se construit généralement dans un environnement où la réponse parentale, donc très souvent la mère, parce que c'est quand même la mère qui porte l'enfant, est imprévisible ou incohérente. Donc, l'enfant reçoit parfois du réconfort et puis d'autres fois de l'indifférence, voire du rejet. Mmh. Alors, tout ça, il l'apprend au fur et à mesure qu'il grandit. Hein, donc, c'est une forme d'adaptation toujours par rapport aux parents. Alors, bien sûr, je parle de la mère, mais bien sûr, il y a le père qui compte également dans le couple. Hein. Mmh. Il y a des situations, par exemple, qui peuvent favoriser ce type d'attachement. Donc, on peut avoir donc, un parent qui peut être très affectueux un jour, puis distant le lendemain, sans raison.
Ouais.
On peut avoir des réponses émotionnelles qui sont exagérées, qui peuvent rendre l'enfant complètement confus face à ce comportement. Par exemple, une maman qui d'un seul coup va déborder d'amour alors que d'habitude, pas forcément, ou plutôt distante. Faut pas oublier que ce lien d'attachement, l'enfant, lui, le ressent dès sa naissance, car c'est un lien qui est archaïque puisqu'il vient aussi de la mère. Mmh. Une mère qui est anxieuse pendant sa grossesse, l'enfant, il ne va pas être très sécure, hein, l'air de rien. Parce que ça se transmet. Hein, faut pas l'oublier que ça se transmet de chair à chair. Hein. Et puis, on va aussi avoir des situations qui favorisent ce type d'attachement par une dépendance, par exemple, émotionnelle du parent à l'enfant. Mmh. C'est-à-dire que l'enfant va venir jouer le rôle de la carence ressentie par le parent, à savoir qu'il va venir jouer un rôle compensateur, affectueux, affectif, et l'enfant va devoir à chaque fois répondre aux besoins du parent. Donc c'est une forme d'adaptation qui est constante. Donc l'enfant ne sera jamais lui-même, mais j'en parle un petit peu plus tard, ne sera jamais vraiment lui-même. En tous les cas, il va être là dans la réponse du parent.
Ok, ça a l'air compliqué.
Enfin, en réponse du parent, exactement.
Très bien. À quoi ça ressemble chez l'enfant, du coup, comment est-ce qu'il réagit ?
Alors, il y a plusieurs signes caractéristiques. Par exemple, ça peut se traduire par un enfant qui pleure et qui proteste de manière excessive lorsque le parent s'en va, par exemple. Mmh. Je laisse mon enfant à la crèche et l'enfant se met à pleurer. Impossible de le consoler, presque. Quelquefois, ça peut durer très longtemps. Donc, il y a une forte anxiété dans le cadre de la séparation.
Ouais.
Par exemple, on peut prendre Lucas, qui a 18 mois, qui présente justement ce type de lien d'attachement. Donc, on répond rapidement à ses besoins, mais d'autres fois, sa maman peut être distraite ou absente pour des raisons diverses. Hein. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une maman qui est dans le stress, qui est fatiguée, qui a des préoccupations personnelles, qui a d'autres enfants à s'occuper, ou qui est une maman tout simplement séparée. C'est ce que Mary Wandsworth appelle la situation étrange, c'est-à-dire c'est ce va-et-vient que on va retrouver. C'est un coup oui, un coup non, un coup je te donne de l'affection, un coup je ne t'en donne pas. Du coup, la séparation va extrêmement angoisser Lucas. Lucas être angoissé dès que sa mère quitte la pièce. Donc, j'expliquais tout à l'heure par rapport à la crèche, ça peut être tout à fait ça. Donc, il y a une détresse intense qui peut durer longtemps. Mmh. Et puis, à son retour, il peut être très heureux et en même temps manifester de la colère parce qu'il ne sait pas trop comment interpréter encore ce retour-là par rapport au comportement de la mère. Donc, c'est un comportement ambivalent qui reflète vraiment une instabilité quant à la disponibilité de la figure d'attachement, donc du parent. Donc, ça crée, bien sûr, chez l'enfant, une forme d'anxiété importante face à l'abandon.
Ok. Ça se manifeste d'autres manières ?
Oui. Donc, souvent, cet enfant, après, a besoin d'attention, d'approbation. Il recherche sans cesse des signes d'affection. Et puis, en même temps, il peut rapidement passer de la joie à la tristesse, à la colère. C'est-à-dire que des réactions intenses face à la frustration. La gestion de la frustration est très difficile.
Ok.
Voilà, donc ça, il faut en prendre compte. Donc, un enfant qui est frustré, souvent, c'est parce qu'il se sent en insécurité.
Et donc, ça se traduit par des réponses émotionnelles fortes
Oui, bien sûr. Par exemple, l'enfant peut très bien s'accrocher à maman parce que maman s'en va. Puis en même temps, maintenant, je dois te laisser. Et c'est quelque chose que l'enfant ne comprend pas.
Ok.
Et puis, on a d'autres réactions face à des signaux ambivalents. Par exemple, dans le quotidien, un enfant qui a développé ce type d'attachement peut réagir de manière exagérée face à des petits changements aussi dans l'attention de ses parents. Si, par exemple, maman est en train de téléphoner Lucas a besoin de maman, elle est absorbée par ce qu'elle est en train de faire, Lucas peut très bien se dire qu'on ne veut pas de lui. Mmh. Il peut ressentir ça comme un rejet. Elle ne fait pas attention à moi. Important, je suis là, je suis en train de jouer. Je lui montre que je suis... Regarde, j'ai fait mon puzzle. Et maman, elle est au téléphone et maman ne peut pas s'en occuper. Donc, l'enfant peut très mal le vivre en réalité. Donc, il peut vraiment vivre ça comme un rejet ou une absence d'amour. Ça peut aller jusque-là. Et puis, ce comportement peut aussi amener une autre recherche. C'est une recherche d'accumulation de contact physique ou verbal. C'est-à-dire être besoin d'être rassuré. Parce que justement... par cette carence, parce que c'est une carence tout doucement qui s'est développée, l'air de rien. Donc, ça peut générer une frustration. Et quand il n'y a pas de réponse à cette frustration, ça peut générer de la colère.
Ok. Bon, donc, quand on passe à l'âge adulte, alors maintenant, à quoi est-ce que ça ressemble ? Est-ce qu'il y a les mêmes situations qui apparaissent ?
Oui, bien sûr. Donc, à l'âge adulte, ces adultes vivent leur relation avec une grande intensité émotionnelle. Qui se manifestent très souvent par la peur de l'abandon. Ils ont besoin d'une assurance constante de l'amour de leur partenaire, une forte dépendance émotionnelle aussi. Ils recherchent une fusion, très souvent.
Ouais.
Il y a un besoin fusionnel avec l'autre. Ça peut provoquer aussi, bien sûr, des comportements de jalousie ou de possession. Mais en tous les cas, cette fusion qui est souvent recherchée. Et puis en même temps, il y a une hypersensibilité face au rejet. Donc, quelqu'un qui va mal, qui ne va pas répondre tout de suite, l'autre peut se sentir rejeté.
Ouais.
Donc, je donne toujours des exemples. Par exemple, on peut très bien avoir Camille qui est en couple avec Cyril et qui, dès que Cyril ne lui répond pas suffisamment tôt ou suffisamment rapidement, Camille peut se sentir complètement... affolée en se disant « Ouh là là, il ne m'a pas répondu, mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a oublié, il ne m'aime plus. » Voilà, donc il y a une forme d'immaturité, bien sûr, mais due à cette carence dont j'ai parlé déjà depuis le début. Mmh. Donc ce lien d'attachement, bien sûr, dans le lien amoureux, on en parle souvent, mais il est là.
Ouais.
Il est là. Et très souvent, donc, dans la relation amoureuse, cette peur d'abandon est constante.
Mmh.
Par exemple, Paul qui va demander fréquemment à sa compagne de confirmer son amour et son engagement en lui envoyant des petits textos, en lui manifestant toujours de l'intérêt.
Ouais.
Et puis, par exemple, aussi le silence. Ça, c'est compliqué pour quelqu'un qui est dans l'anxiété, à savoir le compagnon ou la compagne qui ne répond pas suffisamment.
Ouais.
suffisamment vite.
C'est ça, il faut répondre vite, sinon...
Il faut répondre vite, sinon, bah, voilà, c'est... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me répond pas? Et ça peut être aussi, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bien sûr, il peut y avoir de l'inquiétude. Mais d'abord, c'est ce besoin d'être rassurée, parce qu'en fin de compte, je suis en carence, et en même temps, c'est parce que je ressens du vide. Et ce qui explique cette hypervigilance émotionnelle, parce que... L'adulte, par exemple, si je prenais Caroline, bah, elle est constamment en alerte, prête à détecter le moindre signe de rejet. Et en réalité, ce dont on ne parle pas assez, c'est que quand on est anxieux comme ça, c'est une... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la carence, bien sûr, que l'on ressent, une carence affective qu'on a besoin de venir combler. Et en même temps, si... Tout au fond de soi, c'est une forte solitude que l'on ressent, mais qui n'est pas conscientisée et qui va se manifester également par... on avait parlé du trouble anxieux spécifique, donc la phobie. Eh bien, ça peut venir combler, la phobie peut venir combler justement la peur de, du vent, de l'eau, enfin de tout ce que l'on veut, peut venir combler justement ce manque qui est, bah, qui se manifeste, mais qui n'est pas ressenti, en tout cas conscientisé, de façon à ce qu'on comprenne que ça peut être ça. Et ensuite, on a donc dans la relation, ce que moi j'appelle interpersonnelle, à savoir au sein de relations amicales, familiales, bref, sociétales. Donc les adultes qui présentent ce type de comportement, il ne faut pas oublier que ce sont d'abord des enfants qui se sont développés comme ça et qui ensuite reproduisent qui ils sont. Et par exemple, il y a ça aussi dans l'anxieux, on a celui qui va être avide, qui va être là dans l'attente d'avoir vraiment qu'on réponde à son besoin, et on va avoir l'autre qui un autre style qui est j'ai besoin, mais comme je dois tout le temps m'adapter à l'autre, il faut que je ne fasse qu'en fonction de l'autre, donc il va y aller beaucoup plus doucement. Et du coup, c'est ce qui peut expliquer que, par exemple, si j'ai pris un exemple là, qui Emma, qui souhaite par exemple de la grande disponibilité, proximité émotionnelle par rapport à son conjoint, eh bien, de temps en temps, parce que l'autre ne répond pas tout à fait comme elle a besoin, bah, elle va être dans le rejet, parce qu'elle va se sentir trahie. Donc du coup, ces adultes-là, souvent viennent de... Enfin, c'est souvent l'adulte qui vient de l'enfant qui a dû combler le manque du parent. Donc, il va être dans une prudence, on va dire, quelquefois un peu exagérée, mais il va y aller très doucement parce qu'à chaque fois, peur de prendre un petit coup, on va dire, qui ne va pas répondre. Voilà. Bah oui, c'est ce rejet qu'on a déjà manifesté auprès de lui. Donc, si vous voulez, c'est un réflexe archaïque presque que l'on a. Donc, voilà. Et puis, en même temps, y a la peur du conflit. Il y a la peur du conflit, et parce que justement, ça veut dire que je vais être rejetée. Donc, je vais tout faire pour ne pas en avoir, mais quand j'en ai, en général, les conflits sont très exacerbés. Voilà, donc, ce que je dirais pour résumer, c'est que chez l'adulte, ces schémas précoces, qu'on traduit par ce lien d'attachement, c'est une personne qui recherche sans cesse des signes d'affection et de sécurité, et qui interprète les signaux de façon un petit peu, on va dire, soit neutre, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre la distance, ou soit, on va dire, anxieuse. Donc, qui peut donner de l'incohérence dans le type de comportement.
Très bien.
Alors, bien sûr qu'il y a des solutions, parce que je vous vois, vous allez poser la question.
Comment on fait quand on vit avec ça? Donc, ça a l'air compliqué, ouais.
Bien sûr, la littérature, la psychothérapie, parce qu'on peut amener à en souffrir. Et souvent, ce n'est pas parce qu'on souffre du lien lui-même. Souvent, ça se manifeste par d'autres choses, comme j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Donc, il peut amener des consultations. Et le but est d'identifier, de comprendre ses schémas de pensée, ainsi que ses comportements, de remettre en question aussi, de modifier ses croyances, des croyances négatives qui sont liées à la peur de l'abandon ou du rejet. C'est exposer progressivement, s'exposer aux situations qui peuvent provoquer cette anxiété. Puis bien sûr, renforcer l'estime de soi, parce que ce lien insécure démontre par A plus B que l'estime de soi est carencée.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a toujours une solution, c'est ce que je dis. Positivons, de toute façon, à partir du moment où on s'intéresse un petit peu à soi, qu'on a envie d'améliorer ses conditions de vie, on peut toujours améliorer et se rendre meilleur. En tous les cas, j'ai envie de terminer cette chronique avec une citation de Mary Ainsworth qui nous dit qu'un enfant qui ne sait pas à quoi s'attendre développe une anxiété constante face aux réactions de sa figure ou de ses figures d'attachement.
Merci.
Bonne route, les amis.
Merci beaucoup, Christelle.
Merci, Mathieu.
Calade. 100.9